Bonjour, mesdames, messieurs. Vous savez que lorsqu'un individu est placé en garde à vue, il a le droit d'être entendu sur procès-verbal et d'être informé du motif de son arrestation. Mais dans bien des cas, ça n'arrive pas comme ça. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Votre famille et votre avocat doivent le savoir. Alors, aujourd'hui, nous en parlons avec Nonon Goy. Nonon, qu'est-ce qu'on entend par la garde à vue?
Bien, Nicole, lorsque vous entendez qu'une personne est en garde à vue, cela veut dire que cette personne est en détention dans un commissariat de police. Et pendant cette période, l'officier de police judiciaire va mener une enquête sur cette personne suspectée d'avoir commis une infraction. En principe, Nicole, la garde à vue ne peut pas aller au-delà de 48 heures. Il faut savoir que c'est l'étape qui précède l'instruction au parquet.
Alors, quels sont les droits des détenus en garde à vue?
Bien, d'après les explications d'un responsable de l'inspection provinciale de la police, lorsqu'une personne est placée en garde à vue, elle doit d'abord être informée du motif de son arrestation. Les OPJ doivent l'entendre sur procès verbal. La victime doit prévenir par téléphone la personne avec laquelle elle vit habituellement. Ça peut être soit ses parents, soit son mari, soit sa femme, ses frères ou ses sœurs. Elle doit aussi appeler son avocat. Si la personne appréhendée travaille, elle doit aussi informer son employeur.
Voilà, mais est-ce que ça se passe comme ça ici au Congo? Nous avons appris que non. Alors, vous avez rencontré des personnes qui ont témoigné à ce sujet?
Malheureusement, ici chez nous, les détenus en garde à vue ne bénéficient pas souvent de tous ces droits. Lorsqu'ils sont arrêtés, ils sont d'abord coupés du contact extérieur. Plusieurs personnes le témoignent.
Il y a de cela un mois et demi, un ami à moi, un médecin, avait été mis en garde de vous. Mais l'homme a été maltraité, on l'a presque déshabillé, il est resté assis à même le sol, les urines sur place et tout, c'est déshonorant.
Voilà, nous parlons aujourd'hui de la mise en garde à vue et non garde à vous, hein. Nonon Goy, vous avez suivi les témoignages des auditeurs de Radio Capi. Ça arrive fréquemment dans ce pays, une dame qui est arrêtée parce que, bon, elle s'est battue avec une voisine qui avait...
qui est entrée par irruption dans sa parcelle pour se soulager.
Voilà. Un autre cas d'une personne qui se retrouvait dans un commissariat de police sans pour autant qu'on soit informé. Ça arrive souvent, on n'informe pas la famille et ça ne devrait pas se passer comme ça. Alors, c'est peut-être des cas isolés que nous venons d'entendre. Peut-être que dans d'autres commissariats de police, ça ne se passe pas comme ça, hein, Nonon Goy.
Peut-être bien, Nicole, mais c'est difficile pour nous de l'affirmer, car plusieurs personnes nous ont laissé entendre que lorsque vous êtes appréhendé à la police, vous êtes en insécurité. Suivant.
Nous assistons à beaucoup d'abus. Une fois que tu es saisi par les forces de l'ordre public, on te met dans un lieu, on t'empêche de communiquer avec ta famille, ton avocat, on te confisque même tous tes moyens de communication, entre autres tes appareils cellulaires. On t'empêche d'avoir tout contact extérieur, ne fût-ce que pour permettre à quelqu'un de l'extérieur d'aller prévenir ta famille. Il vaut même au-delà même de délai de détention légale.
Ah oui, par abisso, ceux qui bakangi kamout, police est s'intéresser même pas que et bien la famille et bisabino qui est na bango place telle, balobara na bango te bakenda na bango balobi le route.
Ben ici, tu es d'abord incarcéré avec les assassins, avec les violeurs. Et il y a la pisse, par moments on vous intimide, on vous frappe même.
Cette détention ici chez nous, elle est faite d'une manière illégale. Et les conditions dans lesquelles vivent ces détenus sont des conditions déshonorantes.
Ah, et pas na biso na Congo, eza bongote. Eza sukuta kangyo, bakoti sona kasho. Ata li kamo koza ki noyo innocent. Donc, bakoko sona kasho, bakulinga même pas obi malibanda, balongo le ba sapatu, baboto le ba telefon, ba bijou, on eza kon imulye, ba tumusus.
Voilà les témoignages de tout cela hein, qui ont eu à vivre. Comment est-ce qu'on peut qualifier cela ?
Les abus.
Les abus de la garde à vue. Alors, quels sont finalement les droits des personnes à garde à vue ?
Bien, Nicole, avant de passer aux droits, j'aimerais qu'on parle quand même de la garde à vue sous d'autres cieux. Mm-hmm. Sous d'autres cieux, Nicole, il faut savoir que les droits de l'homme sont respectés. Lorsque vous êtes placé en garde à vue, vous avez le droit de communiquer, vous avez droit à la dignité. Ça se passe plutôt bien chez eux. Nous avons rencontré un monsieur qui vit à Londres. Il nous explique comment ça se passe. Là-bas.
Une garde à vue, ça veut dire qu'il n'y a pas encore flagrance avec preuve. Ça veut dire que tu es un homme libre, mais pour des raisons d'enquête, on va t'isoler. C'est vraiment le contraire de ce qui se passe ici. Je suis tombé quand même dans des embuscades où la police m'a interpellé. Tu n'auras pas droit à ton téléphone mobile, mais il y a un public phone, un téléphone public. Tu pourras appeler ton avocat, tu pourras même appeler ta famille, tout et tout. Rien d'inquiétant, tu es tranquille, tu dors, tu te réveilles, tu bouffes, tu bois, tu fais tout ce que tu veux. Mais sauf que tu es seulement isolé avec le public pour permettre à ce que la police puisse faire leur enquête.
Voilà, donc ça c'est le témoignage d'une personne qui certainement a été...
Qui vit à l'étranger.
Il vit à l'étranger, bon...
Mais qui est de passage ici.
Oui, mais on peut affirmer qu'il a été arrêté peut-être à Londres, il a eu à vivre.
Voilà, il a dit qu'il a été plusieurs fois appréhendé, mais voilà. Ça s'est bien passé.
Mais il a précisé que là-bas, à Londres, sous d'autres cieux, on isole ces personnes qui sont en garde à vue.
Ils n'ont pas droit à leur téléphone.
Ils n'ont pas droit à leur téléphone, mais on ne les enferme pas. Ils ne sont pas dans un cachot, on les isole.
Bah, on ne peut pas appeler ça cachot, mais c'est quand même un lieu de détention.
Mm-hmm, on ne les met pas avec d'autres détenus, hein, certainement.
Non.
Certainement. On pourrait avoir d'autres précisions avec Maître Dominique Amoindo, puisque c'est lui notre invité. Il est bien placé pour répondre à toutes vos questions auditeurs de Radio Capi, à condition que vous puissiez réagir à temps au 081 070 20 50. Alors, il faut quand même reconnaître qu'il y a des gens qui bénéficient de leurs droits lorsqu'ils sont arrêtés. Hein.
Bien, Nicole, bien sûr, mais ce privilège n'est pas donné à tout le monde. Il semble que pour être bien traité, lorsque vous êtes arrêté, il faut avoir un peu d'argent sur vous, comme le confirme ce monsieur.
Le détenu qui a certaines libertés, certains privilèges, c'est celui qui essaie de corrompre le vigile, hein, ou le policier commis à sa surveillance, il donne de l'argent et puis là, à ce moment, il a certaines facilités. Donc il faut être détenu avec de l'argent poche, corrompre la garde. Et là, on vous accorde certaines facilités. Vous pouvez prendre une bière, hein, avoir accès à un bon repas, recevoir des amis, une tige de cigarette et tout. Il faut corrompre. Si vous n'avez pas d'argent, eh bien, c'est fini pour vous. Vous pouvez même vous retrouver à Makala, parce qu'il n'y a personne pour vous soutenir. Je crois que de ce côté-là, la justice congolaise a du pain sur la planche.
Voilà, on pourra certainement avoir d'autres précisions avec Maître Dominique Amoindo, notre invité, hein, puisque la justice congolaise a du pain sur la planche. Hein. Merci beaucoup, Nounonga.
Merci, Nicole.
À la prochaine.
Okapi Action, Nicole Ngaka et J.R. Lungembo.
Lorsque vous êtes en garde à vue, vous avez le droit de bénéficier d'une assistance. Votre famille et votre avocat doivent le savoir, car c'est un droit le plus légitime. Mais nous avons appris qu'en République démocratique du Congo, les choses se passent plutôt autrement. Maître Dominique Kamando n'est pas dans notre avis, n'est-ce pas maître?
Merci beaucoup Nicole. Je vais d'abord préciser que la garde à vue est une mesure que l'officier de police judiciaire prend et qui consiste à la restriction ou à restreindre la liberté des mouvements des suspects, c'est-à-dire des personnes suspectées d'avoir commis telle ou telle autre infraction. C'est là dans l'intérêt de l'administration de la justice pour lui permettre d'avoir des éléments pour arriver à de bonnes conclusions et lorsque certaines conditions prévues par la loi sont réunies. Mmh. C'est le cas, par exemple, lorsque les faits sont d'une certaine gravité. C'est le cas, il faut que l'infraction soit par exemple punissable de plus de 6 mois de servitude pénale. Il faut qu'il y ait risque de craindre la fuite du suspect, c'est-à-dire une personne qui n'a pas une identité bien connue, qui n'a pas un domicile fixe. Donc il y a des conditions qui prévoient la loi pour que l'on puisse arriver à prendre la mesure des gardes à vue.
Et est-ce qu'on peut déjà qualifier ceux qui sont les personnes qui sont en garde à vue comme étant des détenus en garde à vue?
On parle des détenus en garde à vue parce qu'ils n'ont pas leur liberté de mouvement, mais en fait, lorsqu'on se retrouve à cette étape-là, il s'agit encore des suspects. On ne peut pas les traiter de coupables, on ne peut pas...
On ne peut pas donc parler de détenus.
Bon, on parle des détenus, on peut parler des personnes gardées, quoi, qui sont à la disposition de la police. Ils ne sont pas en détention préventive parce que l'officier du ministère public n'est pas encore arrivé à conclure qu'il y a des sérieuses suspicions sur eux ou qu'il y a des indices sérieux de culpabilité. Donc à ce niveau-là, on parle des suspects. Ils sont des suspects. On suppose que ce sont eux qui ont commis l'infraction et on ne peut pas encore les confirmer dès lors que la procédure n'a pas encore suffisamment évolué.
Oui, alors quels sont les droits de ces personnes qui sont qualifiées de suspects, hein? Quels sont leurs droits?
En principe, ces personnes qui sont en garde à vue doivent être gardées dans des locaux décents, doivent être traitées avec dignité, c'est-à-dire qu'ils doivent être à l'aise, ils doivent communiquer avec leur famille, leurs proches et leurs avocats, on ne peut pas les leur empêcher. Ils ont droit, lorsqu'ils demandent, de voir un médecin, lorsque leur santé les requiert, et ils ont le droit d'abord d'être informés du motif de leur arrestation, et avant de décider de la mise sous garde à vue, on doit les entendre sous procès verbal, et l'OPJ doit prendre un titre dans ce qu'on appelle couramment billet d'écrou pour justifier la décision qu'il a prise vis-à-vis de telle ou telle personne.
Mais est-ce que ça se passe comme ça ici au Congo?
Il y a bien des cas où ça se passe comme ça.
En général, Maître Dominique.
Où les officiers de police judiciaire ne respectent pas les prescrits de la loi et ne gardent pas les personnes dans des conditions convenables.
Oui.
Ou parfois commettent des exactions et même des actes de torture sur les personnes à garde à vue.
Donc en général, il y a des abus, hein, pratiquement dans tous les commissariats de police. Vous avez subi tout à l'heure les témoignages de certaines personnes que Nonongoy a eu rencontrées. On confisque le téléphone, on te tabasse comme si vraiment tu étais directement condamné. Les droits de ces personnes en garde à vue ne sont pas respectés. Hein.
Effectivement, les droits des personnes en garde à vue ne sont pas respectés, mais la procédure peut faire qu'il y ait une certaine restriction. Quand on les empêche de la liberté d'aller et de venir, c'est pour les besoins de la cause. Par exemple, en ce qui concerne la question du téléphone,
oui.
On peut peut-être ne pas confisquer le téléphone, mais par exemple permettre à ce que la personne puisse communiquer, mais cela peut se faire sous surveillance. C'est pour éviter quoi? C'est pour éviter que la personne qui est suspectée d'avoir commis un crime communique avec ses complices et leur demande de s'enfuir ou de prendre des dispositions, et cela fait obstruction à la bonne administration de la justice. C'est pour cela qu'on peut parler d'une certaine liberté, mais sous surveillance.
On pourrait parler de cela, malheureusement on n'en parle pas, puisque ça ne se fait pas, et normalement, si on doit appeler cela incarcération des personnes en garde à vue, ça dure combien de temps?
En principe, la garde à vue a un délai de 48 heures. Si à l'issue, ou si à l'expiration de ces délais, l'officier de police judiciaire se rend compte qu'il n'a pas terminé son enquête, il a besoin du temps complémentaire, il ne peut pas prendre cette décision-là de lui-même. Il doit demander l'autorisation au procureur de la République de son ressort qui doit l'autoriser, proroger encore de 48 heures la durée de garde à vue pour lui permettre de conclure son enquête.
Là aussi, on peut dire qu'il y a des abus puisque nous avons appris que dans la majorité des cachots à travers la RDC, les personnes qui sont incarcérées sont pour la plupart des personnes qui n'ont jamais eu de jugement, il n'y a jamais eu de procès, ce sont des personnes qui ont été arrêtées du fait qu'ils étaient en garde à vue et ça s'est prolongé au-delà de 48 heures. Donc on peut dire qu'il y a des abus hein, qui sont commis dans ce domaine.
Effectivement, il y a des abus parce qu'on rencontre dans les cachots au niveau des commissariats de la police des personnes qui sont en garde à vue pour un délai de plus de 48 heures et pour lequel le procureur de la République du ressort n'a pas autorisé la prorogation. Ça, c'est déjà un abus et c'est une violation de la loi.
Mais qu'est-ce que vous, en tant que membre de l'ONG Avocats sans frontières, vous faites pour les droits de toutes ces personnes qui sont en garde à vue à travers le pays?
En principe, dans le fonctionnement de la justice, les officiers de police judiciaire travaillent sous la supervision du parquet. Et c'est le parquet qui contrôle, qui exerce le contrôle sur la manière dont ils font leur travail. Dans ces cadres-là, particulièrement dans la ville de Kinshasa et dans la ville de Mbandaka, où on est déjà à l'œuvre, on a lancé le projet d'inspection des cachots, c'est-à-dire qu'on organise hebdomadairement, régulièrement, des visites des cachots avec les parquets, c'est-à-dire avec les magistrats de parquet. On va dans des cachots où le magistrat du parquet fait des inspections, et dans la plupart des cas, lorsque les magistrats du parquet constatent qu'il y a des irrégularités, et il examine les faits, s'il trouve qu'il s'agit des frais vraiment bénins, il ordonne, ça ce sont des cas qu'on a déjà vu plusieurs fois, il ordonne la mise en liberté de ces personnes. S'il y a besoin que l'instruction puisse se poursuivre, il demande que ces dossiers puissent être transmis au parquet, comme ça le parquet va se charger de poursuivre l'instruction, et si c'est nécessaire de placer les personnes sous mandat d'arrêt provisoire et d'examiner correctement leur cause jusqu'à l'issue de la procédure.
Alors revenons un peu en arrière, hein. Parlons un peu de toutes ces personnes qui ont eu à vivre ces abus, toutes ces personnes qui étaient en garde à vue. Bon, certains ont été libérés après 48 heures, d'autres non. Ils ont été maltraités. Alors est-ce qu'ils ont le droit de porter plainte? Comment ils peuvent faire concrètement?
En principe, lorsqu'une personne a été privée de sa liberté en violation de la loi, cela constitue l'infraction d'arrestation arbitraire. La personne peut s'en plaindre au niveau du parquet pour que justice lui soit faite, ou peut dénoncer ce qu'il a subi au niveau du procureur de la République pour que des mesures soient prises. Des mesures disciplinaires peuvent même être prises à l'endroit des OPJ qui ont violé la loi.
Est-ce qu'il faut payer un certain montant pour ça?
En principe, pour porter plainte, il n'y a pas de frais à payer.
Il n'y a pas de frais à payer pour
déposer. Et en principe, selon la loi, il n'y a pas de frais à payer pour déposer une plainte.
Mm-hmm. Gérard Longuembo, vous avez peut-être d'autres questions?
Non, juste deux questions de curiosité, Maître Dominique. Parce que vous avez parlé tantôt de l'intervention de l'avocat en cas de garde à vue, disons, de détenus en garde à vue. Est-ce que cet avocat peut-il intervenir dès la première heure?
En principe, cela doit se faire de la manière telle que prévue par la Constitution. La Constitution prévoit que toute personne a le droit de se faire assister de son avocat à quelque niveau que ce soit de la procédure. Même avant, la personne peut même être exigée dès qu'elle est interpellée qu'avant de commencer à parler, que cela se fasse en présence de son avocat. C'est un droit constitutionnel qu'on lui reconnaît. Mais bien des cas, on voit des officiers de police judiciaire qui refusent cela. Et si les personnes ne connaissent pas leurs droits, elles se laissent aller. On a vu même des cas où des policiers disaient aux avocats, non, attendez quand le dossier sera au parquet ici. Non, les policiers ou les officiers de police judiciaire ne peuvent pas se soustraire derrière le principe du secret d'instruction pour empêcher les avocats d'assister leurs clients. Donc, toute personne a le droit d'être assistée à tous les niveaux de la procédure, même au niveau de l'officier de police judiciaire.
Oui, mais dans les cas d'espèce, est-ce qu'un détenu en garde à vue peut-il garder silence quand il trouve que, disons, sa requête a été rejetée quant à l'intervention de son avocat? Est-ce qu'il peut garder silence?
Effectivement, le droit au silence est reconnu. Il peut même demander à ses proches de dénoncer cela au parquet, parce que lorsque cela est dénoncé au parquet, le procureur de la République ou le magistrat a le droit de faire une réquisition d'informations, c'est-à-dire il peut demander à l'officier de police judiciaire qui a les dossiers de lui transmettre ces dossiers tout à fait récents et de cesser de poser des actes. C'est une façon de contrôler et d'éveiller aux droits des personnes en garde à vue.
Mmh. Est-ce qu'un détenu en garde à vue peut-il être jugé directement, c'est-à-dire le même jour? A-t-il le droit de refuser d'être jugé le même jour?
Bon, au niveau de la garde à vue, on ne juge pas. Il doit en principe être entendu. La plupart des personnes, quand on va à la cité, ils disent, bon, OPJ à Kanginga, à Kotisinga, à Kacho, Basambi Singate. Effectivement, il veut dire par là qu'on ne l'a pas entendu. Mais on ne peut pas placer une personne en garde à vue tant qu'on ne l'a pas entendu. On doit d'abord lui dire le motif de son arrestation et l'entendre sous procès verbal. Et c'est à l'issue de l'examen.
Donc le procès verbal ne constitue pas un jugement?
Non. En principe, sur le plan technique, quand on parle du jugement, on se trouve déjà au niveau du tribunal. C'est-à-dire que la phase d'enquête, la phase d'instruction, aussi bien à la police et au parquet est dépassé, et c'est les juges qui prononcent les jugements, c'est-à-dire la dernière décision. À ce niveau-là, il s'agit des enquêtes et de l'examen des faits.
Alors, pour le citoyen moyen, ça pose généralement pas de problème, mais sur les terrains politiques, on remarque parfois des détentions à garde à vue qui, normalement, ne donnent même pas accès aux membres des familles de pouvoir assister ces détenus. Pour les cas d'espèce, il y a aussi une procédure à suivre quant à une plainte déposée devant un juge d'instruction.
En principe, lorsqu'on est en garde à vue, on doit communiquer avec sa famille et ses proches. Lorsque cela ne se fait pas, la personne, bien sûr qu'elle-même est en garde à vue, elle ne sait pas se déplacer, par les biais de son avocat, par les biais de ses proches, peut dénoncer cela au niveau du parquet.
Voilà, alors, si vous le permettez, on va donner la parole également à tous ceux-là qui nous suivent à travers le pays, à nos auditeurs. Hein. Nous avons par exemple la question, ce sont les mêmes questions qui reviennent hein, finalement, mais on va quand même les lire pour leur faire plaisir. De Bukavu, Robert Barhomme nous dit quel est le temps maximal prévu par la loi pour une garde à vue. Vous avez dit 48 heures, pas plus.
Pas plus. Pour aller au-delà, il faut l'autorisation du procureur de la République.
Mm-hmm. Et ça ne s'est jamais fait ainsi.
Non, il y a des cas où cela est arrivé.
Oui, il y a des cas. À Kinshasa, ailleurs au Congo.
Bon, j'en connais quelques-uns à Kinshasa où les officiers de police judiciaire qui menaient des enquêtes, au-delà, ils ont demandé au procureur de la République qui a autorisé la prorogation de la garde à vue. Mais dans la plupart des cas, les officiers de police judiciaire ne respectent pas cette formalité.
Nous avons également la question depuis Kananga de Mathieu Béa qui dit « Un détenu victime d'un traitement pareil, que peut-il faire ?» Donc certainement quand il y a eu des abus plutôt qui ont été commis.
Effectivement, s'il y a des abus, les détenus peuvent d'abord les dénoncer au niveau du parquet et il a le droit, il peut même se plaindre lorsqu'on a pris ses biens, ça peut être une extorsion, ça peut être d'autres infractions, il peut se plaindre contre les policiers au parquet pour des infractions et des abus qu'il a subis.
Quand on lui a confisqué son téléphone.
Oui, ça c'est une extorsion, c'est une infraction.
Son
argent, sa montre, ses biens, ça ce sont des infractions qui peuvent être poursuivies et sanctionnées.
Alors il y a depuis Goma, Eric qui est à Tiria, qui nous pose la question suivante. Il dit, quelles sont les sanctions réservées aux responsables des prisons qui ont violé les droits de la personne gardée en vue?
En principe, la garde à vue, ce n'est pas au niveau des prisons, c'est plus au niveau des amigos ou des cachots de la police. Il peut s'en suivre des sanctions disciplinaires qui peuvent être prises par le procureur de la République vis-à-vis des OPJ. Et lorsque certains faits sont constitutifs d'infractions, ça dépend si ce sont des coups et blessures, si c'est l'arrestation arbitraire vraiment avec des circonstances aggravantes ou pas. Là, les juges apprécient et prennent la sanction selon la loi et selon les cas d'espèce. Par exemple, pour l'arrestation arbitraire, il y a des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 3, 4, 5 ans de servitude pénale. Et pour des coups et blessures simples, ça peut tourner autour de 3, 2 mois. Donc, ça dépend de l'examen que l'on fait des faits. Mais lorsque les faits sont prouvés et l'infraction établie, les personnes peuvent être poursuivies et sanctionnées. C'est pour cela que nous avions parlé l'autre fois de la répression, de la pénalisation, de la torture. Parce que c'est le genre de comportement que les officiers des polices judiciaires font subir aux personnes en garde à vue constitue effectivement les actes de torture. Mais l'infraction de torture n'est pas encore consacré en droit congolais, c'est ainsi qu'on ne peut pas poursuivre pour torture. Il faut que le Parlement, on dit qu'il n'y a pas de peine, il n'y a pas d'infraction sans loi, il n'y a pas encore une loi qui pénalise cela.
Alors, on va rapidement terminer par là, parce qu'il y a trop de questions qui nous arrivent de partout, hein, Maître Dominique, notamment celle-ci, où Katie, depuis Logo, nous dit, à Mahagi, qui pourrait prendre soin de la personne qui est en détention, en garde à vue, pendant ces 48 heures, notamment, il a parlé de l'aspect soins médicaux, nourriture de la personne qui est détenue, qui devrait normalement s'en occuper, puisqu'on refuse à la famille le droit de voir la personne qui est en détention provisoire.
En principe, la police devait normalement se charger de nourrir les personnes qui sont en garde à vue, mais nous savons que cela ne se fait pas, mais c'est une raison pour la plus pour qu'on ne puisse pas interdire les contacts avec les familles. Mais dans les cas d'espèce, dans la pratique chez nous, c'est la famille qui continue à prendre en charge les frais de nourriture.
Mais on refuse à la famille mais de voir plus, souvent.
Ce qui est grave, c'est que parfois on refuse les contacts, mais ça c'est illégal. C'est illégal, on ne doit pas refuser.
Pendant 48 heures, il doit quand même manger.
Effectivement.
Mais, non, on n'accepte pas.
En dépit de sa liberté de mouvement, la personne conserve tous ses droits.
Oui, Maître Dominique, qu'est-ce qui s'ensuit juste après la détention en garde à vue?
En principe, lorsque la personne est détenue en garde à vue, l'officier de police judiciaire, quand il a terminé son enquête, il peut soit remettre la personne en liberté ou la transférer avec son dossier au parquet. À ce moment-là, nous arrivons à la phase d'instruction préparatoire où l'officier de police, l'officier du ministère public va réexaminer à son tour les dossiers. S'il s'avère pour lui que les faits sont établis, il va faire fixer les dossiers au tribunal pour que la personne soit jugée et fixée sur son sort.
S'il vous plaît, et l'enquête peut prendre plus de temps que prévu?
Ça dépend des faits d'un fait à un autre, mais il est demandé au ministère public d'instruire avec célérité et diligence les personnes, les dossiers des personnes en détention.
Oui, dans bien des cas, on oriente directement les détenus à garde à vue à Makala, notamment à la prison centrale. Est-ce que c'est une bonne procédure?
Une personne ne peut pas passer de la garde à vue du cachot de la police directement à la prison sans passer par le parquet, parce que pour que l'on puisse être emmené en prison, être considéré comme détenu préventif, il faut que l'officier du ministère public prenne les mandats d'arrêt provisoire. Et pour cela, il doit aussi instruire les dossiers, les comprendre. Lorsqu'il se rend compte qu'il y a des indices sérieux de culpabilité qui pèsent sur la personne et la personne peut craindre, l'officier du ministère public peut prendre un mandat d'arrêt provisoire. À ce moment-là, on peut transférer la personne la prison pour sa détention.
Il y a beaucoup de réactions, mais c'est dans le même sens. Il y a quelqu'un qui nous remet Kalinda Mbujimaï qui dit le gouvernement des RDC doit garantir la liberté d'expression. C'est pas vraiment le sujet directement. Alors Carlos Ditunga qui nous dit nous avons déjà un gouvernement responsable, mais pourquoi en RDC on continue à amener les gens en manu militari? Ça aussi, c'est la procédure là. Quand on arrive pour prendre quelqu'un et l'amener en détention,
on le brutalise.
Oui. C'est quand même une mauvaise façon de faire les choses.
En principe, c'est un mauvais traitement. On ne doit pas privilégier une personne, on doit la traiter avec dignité. Et pour que l'on puisse l'amener brutalement, le brutaliser, il faut que la personne ait refusé de se rendre. Lorsqu'on vient, on trouve une personne, on lui dit « Bon, on a un mandat d'amener, vous êtes entendu au parquet. »
Il faut lire le mandat d'arrêt.
Effectivement, la personne
on
doit
le lit
aller.
Pas. Il n'y a même pas de mandat.
On doit présenter les titres.
Des cas, on dit les motifs vous sera communiqué sur place.
Sur place.
Là, dans des cas pareils, est-ce que faut-il accepter d'aller?
Non, lorsqu'il y a un mandat d'amener en bonne et due forme. Non, le but du mandat d'amener n'est pas d'informer de la personne du motif de son arrestation ou du motif pour lequel on lui demande de se présenter. C'est quand on envoie un mandat d'amener, c'est pour contraindre la personne à se rendre. Dans la plupart des cas, qu'on a envoyé soit des convocations, des mandats de comparution et que la personne ne s'est pas présentée. Mais dès qu'on l'amène, la première chose à faire, c'est de l'informer sur les motifs interpellation.
Avant de poursuivre avec les questions, juste une petite précision sur ce que vous venez de dire, Maître Dominique. À supposer que la police débarque chez vous et qu'il n'y a pas de mandat d'amener, qu'est-ce que vous faites en ce moment-là?
En tout cas, là, vous êtes en droit de refuser de vous rendre.
Vous devez résister.
En principe, on ne peut pas venir chercher une personne et l'amener sans titre, sans mandat d'amener.
Mmh. Oui, de Beni Vakeya et puis de Siro, je crois, Fikiri Saïd, non, Ouvira, posent presque la même question. Ils disent, est-ce qu'il y a des amendes à payer par la personne en garde à vue? Est-ce que vous pouvez quand même revenir? Vous avez dit qu'il n'y a pas de mandat.
Mais c'est important.
En principe, lorsque la personne est en garde à vue et qu'après l'examen du dossier, l'officier de police judiciaire se rend compte que les personnes, par exemple, se sont réconciliées ou les faits ne sont pas très graves, il peut conclure à une amende transactionnelle, c'est-à-dire il fixe une amende transactionnelle que la personne peut payer et à ce moment-là, les dossiers...
Une amende transactionnelle, ça veut dire quoi ça, Maître Dominique?
C'est-à-dire qu'il y a certains faits qui ne sont pas très très graves pour lesquels la loi ne prévoit qu'une peine d'amende et pour ne pas trop déranger les juges, pour ne pas encombrer les parquets avec beaucoup de dossiers qui ne sont pas très très importants au niveau de la police, certains dossiers peuvent être clos à ce niveau-là. Et pour que la personne sente quand même et sache qu'elle a commis une infraction, et cela doit se payer, il doit subir une correction. Non, là, ça dépend d'une infraction à une autre.
10 dollars, 20 dollars.
Ça peut être moins, ça peut être un peu plus, ça dépend d'une infraction à une autre et de l'amende prévue par la loi pour cette infraction-là. Parce que l'amende transactionnelle ne peut pas dépasser le maximum de l'amende prévue par la loi pour l'infraction. Par exemple, si la loi prévoit que pour telle infraction, vous devez payer une amende de 20 000 francs, l'amende transactionnelle que l'officier de police judiciaire doit fixer ne peut pas fixer ces taux-là.
Voilà, Maître Dominique, on va s'arrêter là, on a débordé sur le temps. Hein. Vous reviendrez dans ce studio prochainement pour un autre sujet toujours en rapport avec le droit. Mais pour aujourd'hui, on s'arrête là. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres, Maître, et à la prochaine.
Merci Nicole, merci JR.
Bye.